Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission de Psychoserie. C'est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie, la psychologie et la société. Et nous sommes en ondes tous les dimanches à 11h30 à l'antenne de CHIZ 94.3. Nos épisodes sont également disponibles en rediffusion en balado via notre page Facebook nommée Psychoserie, mais également sur l'application Balado et sur Spotify. Psychoserie, c'est une émission de divertissement, de vulgarisation scientifique. Donc, il est important de dire que ça ne remplace pas une consultation auprès d'un professionnel de la santé et qu'aucun lien médecin-patient n'est formé durant l'émission. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite à consulter auprès de votre médecin de famille ou au centre d'aide des étudiants de l'Université Laval. Pour la prochaine demi-heure, vous êtes en compagnie de moi-même, Yasmine Nadifi. Je suis médecin résidente en première année de spécialisation en psychiatrie à l'Université Laval. Et je suis en compagnie de ma collègue Isabelle Martin-Zeman, qui est résidente en troisième année de spécialisation aussi en psychiatrie. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yasmine.
Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Alors, le sujet que tu as choisi d'aborder aujourd'hui, c'est l'aide médicale à mourir. Peux-tu nous glisser un mot sur comment t'es venu cet intérêt pour l'aide médicale à mourir?
Ben, en fait, c'est quand même un sujet là d'actualité qu'on voit beaucoup passer là dans les journaux dans les derniers temps parce qu'il y a eu beaucoup de modifications là aux lois qui ont été faites, puis on en reparlera un peu plus tard. Fait que c'est sûr que bon, c'est un sujet d'actualité qui m'intéressait. Puis c'est sûr que aussi en clinique, c'est arrivé à quelques reprises que par exemple, j'ai eu un patient qui a un diagnostic de cancer puis que pour lui de vivre avec une maladie qui affecte sa qualité de vie, mais que c'était inacceptable, puis aussi quelqu'un bon qui vivait beaucoup de solitude, qui était souffrant également de ça, puis dans le contexte aussi qui avait une perte d'autonomie, donc qui faisait une demande là d'aide médicale à mourir. Donc c'est sûr bon que quand on est confronté à des demandes comme ça, ben ça nous questionne un peu de savoir qu'est-ce qui peut être éligible, puis un peu quels sont les critères, puis de voir un peu comment ça fonctionne tout ça. Fait que c'est sûr que c'est à partir de ça là que j'ai initié ma réflexion, puis plus mes recherches.
Oui, en effet, c'est une réalité à laquelle on est confronté tout au long de nos études médicales et tout au long aussi de notre carrière là, médicale. Puis pour avoir vu des cas, moi aussi, là, au courant de ma résidence, ça a évoqué plusieurs questionnements puis un désir d'en apprendre plus. Donc pour vous qui écoutez l'émission, on va essayer de démystifier tout ça avec vous dans l'espace du temps qu'on a aujourd'hui. Pour commencer, Isabelle, pourrais-tu nous définir un peu l'aide médicale à mourir?
Oui, ben en fait, quand on regarde dans le code criminel, l'aide médicale à mourir, c'est vraiment le fait d'administrer à une personne, à sa demande, une substance là, qui cause sa mort. Donc ça, c'est la définition là qu'on a là au niveau canadien, au niveau du code criminel.
OK. Oui.
Oui.
Donc, ça, c'est la définition qu'on a au code criminel. Peux-tu nous dire un petit peu concrètement comment ça s'applique là, dans la pratique quotidienne là, médicale?
Oui, ben peut-être que juste avant, je ferais juste une petite intervention pour rajouter que l'aide médicale à mourir, c'est différent aussi du suicide assisté là, qu'on peut souvent entendre parler. Puis à ce moment-là, tu sais, c'est vraiment plus le médecin qui fournit aussi les substances là, tu sais, létales que la personne va s'auto-administrer. Puis vraiment juste mentionner quand que c'est de l'aide médicale à mourir, ben c'est vraiment distinct du suicide assisté parce que l'acte doit être posé là par un médecin dans un contexte de soins. Fait que juste ça, c'était un petit peu pour clarifier.
Oui, c'est ça, c'est une distinction importante à apporter, là.
Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis, de limiter les souffrances d'une personne. En fait, tu sais, jusqu'à tout récemment, il y avait des critères qui étaient exigés par la loi au niveau du Québec et au niveau du Canada. Au niveau du Québec, c'est la loi concernant les soins de fin de vie. On pourrait y revenir un petit peu plus tard. Puis au Canada, c'est une modification là au niveau du code criminel. Puis jusqu'à tout récemment, les personnes qui demandaient l'aide médicale à mourir devaient être en fin de vie avec une maladie qui était grave et incurable. Puis ils devaient avoir un déclin aussi avancé puis irréversible de leur capacité avec des souffrances constantes et insupportables. Donc, puis la personne devait être apte et majeure. Donc, c'était les principaux là, critères qui étaient exigés là, jusqu'à tout récemment.
Et puis là, tu nous dis tout récemment, donc ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées. Peux-tu nous expliquer quelles sont les modifications, puis un peu le contexte dans lequel ça a été fait?
Oui, ben bien sûr, c'est sûr que bon, on voit ça quand même passer souvent. Juste pour commencer le débat, tu sais, c'était plus au niveau du début des années 2010 au Québec, et puis c'est juste en 2015 là que la loi concernant les soins de fin de vie, dont l'aide médicale à mourir est entrée en vigueur au Québec. Puis c'est ensuite au Canada que là il y a eu les modifications là par rapport à l'aide médicale à mourir dans la loi qui s'était rendue autorisée. Puis, jusqu'à tout récemment, qu'est-ce qu'on a vu? C'était l'affaire Jean Truchon et Nicole Gladue, que vous avez peut-être vu passer. Ça a été assez médiatisé. Puis, il y a des personnes, en fait, qui avaient des handicaps physiques, mais dans le fond, qui n'étaient pas en fin de vie là, active. Puis, eux, ils ont contesté que, dans le fond, d'avoir un critère de mort qui était raisonnablement prévisible et de fin de vie, bien, que c'était discriminatoire. Puis, suite à ça, ben là, c'est là qu'il y a eu le jugement Baudouin, que aussi on a vu passer, qui disait dans le fond que les critères de fin de vie, ben, ça contrevenait aux droits là, de la Charte canadienne des droits et libertés. Puis, c'est suite à ça, dans le fond, qu'ils ont enlevé le critère de fin de vie dans la loi de l'aide médicale à mourir. Puis après ça, bon, il y a eu beaucoup là, de questionnements sur qu'est-ce qu'on allait faire avec ces critères-là, parce que dans le fond, une fois que le critère de fin de vie est enlevé, ben ça ouvre la porte à toutes les maladies qui sont chroniques, mais qui sont pas en fin de vie. Ça donnait aussi, dans le fond, des questionnements sur les personnes qui ont des troubles mentaux, donc des maladies chroniques. Donc, il y a eu là, bon, plein d'extension. En fait, il y a eu un projet de loi, le projet de loi C-7, là, qu'on a vu passer là, beaucoup dans les médias au Canada, qui a été déposé en 2020, en février, mais avec la COVID. Puis, en fait, il y a eu beaucoup d'extensions. Puis, c'est vraiment juste là, que tout récemment là, qu'on a eu la sanction royale du projet de loi C-7 que je vais vous parler. En fait, le projet de loi C-7, c'est vraiment une loi qui a été déposée au Canada pour modifier le code criminel et faire des mesures de protection pour les personnes dont la mort naturelle est pas raisonnablement prévisible. Ça, c'est arrivé le 17 mars dernier. Oui, en fait, tu sais, je peux l'expliquer brièvement, c'est que qu'est-ce que ça va faire? C'est que maintenant, on va entrer dans deux catégories là, de séries de sauvegarde, c'est-à-dire deux catégories là, de gens qui peuvent demander de l'aide médicale à mourir. Et il va y avoir une catégorie pour les personnes que la mort est prévisible. Donc, ça, c'était quand même ça avant, par exemple, les personnes en fin de vie. Puis maintenant, il va y avoir aussi une catégorie pour les personnes dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible, c'est-à-dire des personnes qui ont des maladies chroniques, mais qui sont pas, tu sais, en fin de vie, qui vont pas mourir là, de manière imminente. Donc, ça, c'est une des grosses là, différences qu'il y a eu. Puis il y a eu là, beaucoup de, après ça là, de petits points différents, là, mais c'est principalement ça maintenant qui a été fait, là, que c'est vraiment divisé en deux.
Donc, on comprend que c'est, bon, l'aide médicale à mourir, c'est une loi qui a eu beaucoup de changements récemment, puis qui évolue au travers là, des années. Ça a amené aussi les nouvelles modifications à des enjeux éthiques additionnellement, puis bon, plusieurs débats qui se posent en lien avec ça. Mais juste avant de plonger là-dedans, pour mettre un peu plus de contexte là, aux gens qui écoutent et qui n'ont jamais été confrontés à des situations comme ça, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, ça ressemble à quoi les gens qui demandent l'aide médicale à mourir, là? Qu'est-ce que les statistiques nous donnent comme information?
Oui, ben, je pense que c'est bien de faire le tour un peu au Québec et au Canada dans les dernières années, à quoi ça ressemblait. Au Québec, si on regarde entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, l'aide médicale à mourir, les décès que ça entraînait, c'est 2,6% de tous les décès au Québec. Puis, en fait, en 2019, au Canada, c'était 2% de tous les décès au pays. Donc, bon, c'est une minorité, mais quand même, c'est présent. Puis c'est comme si ça semblait aussi là, avec les années gagner en acceptabilité sociale, comme s'il y avait une espèce d'expérience de bien mourir dans la dignité, que c'était comme plus imprégné au niveau de la population. Puis on voit les nombres là, d'aides médicales à mourir là, augmenter là, depuis là, 2015.
Oui, puis donc ces personnes-là ont donc 2,6% de la population. C'est pour quelle raison que c'est demandé? Puis ça, c'est un peu demandé dans quel contexte l'aide médicale à mourir?
Ben, en fait, c'est ça, quand on regarde au Canada les affectations principales, c'est-à-dire pourquoi que la personne demandait l'aide médicale à mourir, on voit que c'était surtout des patients qui étaient en fin de vie, qui avaient des cancers. Ça, c'était dans 67% des cas. Le reste, là, c'était plutôt mineur, puis c'était sur réparti, tu sais, avec des troubles respiratoires, des troubles neurologiques, des problèmes cardiaques, mais c'était surtout des gens qui avaient cancer, puis tu sais, c'était autant des hommes que des femmes. Puis aussi, peut-être, tu sais, dans le fond, c'était vraiment une majorité de personnes qui étaient plus âgées. Tu sais, la moyenne d'âge, c'était 75 ans. Fait que, tu sais, c'était pas des gens très âgés comme 90 ans et plus, ni des très jeunes, là. Fait que c'était plus cette tranche-là de la population.
Oui, puis pour revenir un peu aux raisons qui poussent ces personnes-là à le demander, est-ce qu'on a des informations à ce sujet-là?
Oui, ben en fait, qu'est-ce que j'avais trouvé intéressant, quand on voit sur le site de Santé Canada, on voit là que les praticiens, les médecins étaient obligés de demander aux personnes qui demandaient l'aide médicale à mourir l'origine de leur souffrance. Puis on pourrait se dire, bon, ben, dans la majorité des cas, c'est des gens qui ont des grandes souffrances physiques, qui n'arrivent pas à avoir un contrôle de la douleur, mais en fait, on voyait que dans 80% des cas, un petit peu plus, les personnes rapportaient là, qu'est-ce qu'ils trouvaient le plus souffrant, c'est qu'il y avait une perte de la capacité à s'engager dans des activités là qui étaient significatives dans leur vie. Aussi, tu sais, les gens rapportaient beaucoup là qu'il y avait une perte de capacité vraiment de faire des activités de la vie quotidienne. Donc, c'était vraiment là les deux sources de souffrance là, qui étaient le plus rapportées par les gens qui faisaient ces demandes-là.
Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir une vue sur les raisons là, qui causent cette souffrance-là, ce désir de demander l'aide médicale à mourir. Donc, on a beaucoup, là, on se questionne, bon, sur le patient, mais qu'est-ce qu'il y en est pour les familles, pour les proches, les gens qui accompagnent la personne là, au travers du processus d'aide médicale à mourir?
Oui, ben c'est une bonne question parce que j'avais regardé aussi des études qui étaient sorties récemment. Puis il y a une étude là, qui était faite dans un journal de médecine palliative qui en fait montrait, ça c'était une étude faite quand même aussi au Canada, que les proches ils pouvaient être mieux préparés là pour la mort. T'sais, de la personne. Puis c'est comme aussi qu'ils pouvaient, dans le fond, dire au revoir. Puis peut-être que dans ce contexte-là, vu que les personnes t'sais, décédaient de manière prévisible, puis qu'on savait de la manière que ça allait arriver, ben que ça pouvait, dans certains cas, épargner là, aux proches des traumatismes. Puis que ça semblait quand même, en fait, certains cas, réduire les symptômes de deuil et de stress post-traumatique là, dans le fond, que plutôt que si la personne était morte là, d'une mort naturelle là, de par exemple d'un cancer qui se complique. Donc, il y avait une étude qui montrait ça, puis il y avait une autre étude aussi là qui, en fait, la traduction c'est donner vie à la mort, en fait, qui disait là que dans leur recherche, ben ils montraient que la période avant l'aide médicale à mourir, tu sais, en fond, ça faisait une période critique où la personne pouvait débuter le deuil un peu plus tôt, puis que ça permettait, dans certains cas, de faire même une cérémonie là, pour donner un sens puis, à la vie là, du mourant. Puis, dans le fond, que ça permettait aux gens de s'impliquer, puis de faire des activités, de générer des tâches en famille, puis de préparer là, quelque chose, c'est ça, là, dans le fond, vraiment plus comme une cérémonie, puis que c'était positif là, pour ces familles-là. Puis, dans le fond, que ce n'était pas des expériences qui étaient nécessairement traumatisantes.
Donc, c'est très intéressant de voir les impacts que ça peut aussi avoir sur la famille et leur processus de deuil à eux aussi, là, auxquels ils ont à faire face. Donc, ben, je pense que ça fait un bon tour un peu de la mise en contexte. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter avant qu'on aille un peu plus dans le vif du sujet, là, des nouvelles modifications.
Non, ben en fait, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler, là, c'est comme un sujet qui est large, on a beaucoup d'autres débats à venir, mais je pense que tu sais, ça met un peu la table là, sur, après ça, qu'est-ce qu'on va vouloir parler là, par la suite.
OK, parfait. Donc, comme tu nous l'as expliqué tantôt, il y a une nouvelle loi qui a comme été mise en place. Puis, entre autres, ça a amené un nouveau débat Ben, un débat qui était déjà existant, mais qui est revenu aussi là, d'actualité, autour de la santé mentale et l'aide médicale à mourir. Est-ce que tu pourrais comme nous expliquer un peu c'est quoi les enjeux au cœur de ça, puis peut-être les deux positions là, qui se font face?
Ben, en fait, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde sur le ministère de la Justice, c'est qu'il y a vraiment une catégorie qui est admissibilité des personnes atteintes de maladies mentales. Puis, en fait, c'est mentionné qu'il y a une exclusion temporaire des personnes qui ont des maladies mentales comme seul problème médical invoqué pour faire une demande d'aide médicale à mourir. En fait, c'est marqué que c'était une exclusion temporaire qui ne sera pas admissible avant le 17 mars 2023, donc dans 2 ans. Puis le ministère, dans la loi, a demandé là, que le ministère de la Justice et de la Santé fasse un groupe d'experts pour examiner les protocoles puis les mesures de sauvegarde dans le cas là, d'aide médicale à mourir chez les personnes atteintes vraiment seulement de maladies mentales, puis qui vont faire des recommandations d'ici 1 an. Donc, on voit que c'est comme un sujet vraiment d'actualité où il va y avoir des groupes d'experts qui vont devoir se prononcer sur l'encadrement, en fait, d'aide médicale à mourir chez les personnes qui ont un trouble mental comme seul problème médical invoqué. Puis, en fait, il y a eu déjà un comité qui a été mis sur pied. C'est le comité, en fait, de l'Association des médecins et psychiatres du Québec qui a déjà fait un document réflectif par rapport aux spécificités des troubles mentaux dans l'aide médicale à mourir. C'est un document qui est quand même bien fait, mais qui prend en considération là, hein, que ça s'en venait. C'est pas comme un document nécessairement éthique, mais c'est un document qui est accessible sur Internet si ça peut vous intéresser. Puis qui est fait avec un groupe de psychiatres, puis qui est quand même assez bien monté. Puis en fait, c'est qu'on voit là qu'il y a vraiment des spécificités dans les troubles mentaux qui sont différents là que quand c'est juste des maladies physiques. En fait, aussi, il faut se rappeler hein, que l'aide médicale à mourir, c'est vraiment censé être quelque chose qui est demandé de manière exceptionnelle. Tu sais, c'est pas quelque chose là, qui va être la norme puis que tout le monde va avoir accès, mais ça va être vraiment dans des situations précises. Puis, quand on est dans le fond, dans le contexte de troubles mentaux, ben, ça amène différents enjeux. Une des choses, c'est vraiment de savoir comment qu'on peut qualifier qu'une maladie mentale est incurable et irréversible, puis aussi d'évaluer la souffrance du patient. Fait que ça, c'est 2 enjeux. Puis il y avait aussi d'évaluer l'aptitude parce que la personne doit être apte, donc capable à consentir. Puis est-ce que quand il y a un trouble mental, ben ça peut affecter son aptitude? Ça aussi, ça, c'est des questions là qui sont soulevées. Puis de voir aussi la suicidalité, en fait, c'est de voir comment on peut différencier un symptôme psychiatrique, par exemple, d'une personne qui est déprimée, qui veut se suicider ou mettre fin à ses jours, d'une demande qui est vraiment réfléchie d'aide médicale à mourir. Fait que ça, c'est des enjeux là, tu sais, qu'on peut discuter là, qui sont présents. Puis il y avait eu d'autres documents aussi là qui avaient été faits, comme en 2018 avec le Conseil des académies canadiennes. Fait que tu sais, c'est quand même quelque chose là, où il y a déjà beaucoup de monde qui se sont penchés, mais que ça va devenir peut-être plus concret là, dans les prochaines années.
C'est des enjeux qui ont déjà été soulevés, mais là, on sent qu'on se rapproche plus d'une décision à ce niveau-là. Comme là, on comprend qu'en 2023, il devrait peut-être avoir quelque chose de plus concret, une loi peut-être déposée à ce sujet.
C'est ça. Fait que, tu sais, il laisse le temps, il laisse 1 an là pour essayer là de faire des mesures de sauvegarde, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que la loi, tu sais, va autoriser ou pas. Mais dans le fond, ils seront plus exclus là dans la loi actuelle.
OK. Puis, donc là, on a parlé un peu les enjeux éthiques là, que ça soulevait. Et tu as mentionné que l'Association médicale des psychiatres du Québec a fait un document. Est-ce que tu pourrais nous glisser peut-être un mot là, sur c'est quoi le document en tant que tel, puis qu'est-ce que ça contient, là?
C'est ça. Ben en fait, ce document-là, tu sais, va vraiment aborder comme les 4 enjeux là, que je vous ai nommés précédemment, puis aborde un peu qu'est-ce qui se fait au niveau de l'aide médicale à mourir chez les patients avec des troubles mentaux dans d'autres pays, puis un peu une suggestion de l'organisation au Québec si ça advenant là que ça se concrétise dans la loi là, ben dans le fond comment qu'on pourrait organiser notre système de santé. Donc c'est des sujets là qui ont été abordés. Puis tu sais, ils ont poussé là comme tu sais, chaque questionnement là vraiment de manière plus approfondie. Puis en fait, peut-être que je peux juste parler un des enjeux, en fait, c'est que il y a vraiment une difficulté, en fait, à savoir quels critères qu'on peut utiliser pour évaluer si un trouble mental est considéré comme incurable, parce que c'est quand même ça dans les critères pour qu'une personne soit accessible à l'aide médicale à mourir. Mais en psychiatrie, souvent, les processus physiopathologiques, c'est-à-dire comment la maladie là se développe, qu'est-ce qui est la cause sous-jacente, ben c'est souvent inconnu. Donc c'est dur de dire que c'est incurable, que c'est impossible d'inverser ou d'arrêter ou d'éliminer là en fait la maladie. Puis c'est qu'il va y avoir de l'incertitude, c'est-à-dire que quand on est en dehors d'un contexte de fin de vie, ben on va toujours tu sais avoir un niveau d'incertitude, c'est-à-dire que, par exemple, il pourrait avoir des nouvelles interventions qui vont venir avec les années, ou par exemple, une personne déprimée, même, tu sais, pourrait retrouver le goût de vivre. Donc, tu sais, c'est de se questionner aussi en tant que société, quel niveau de certitude est nécessaire pour que quelqu'un accepte une demande d'aide médicale à mourir chez un patient qui a un trouble mental comme ça, le problème médical invoqué dans une demande d'aide médicale à mourir.
Donc, ça va être quand même un gros point qu'il va avoir à clarifier, là, qui fait la différence entre les troubles physiques et qui ont été mentionnés là, dans les projets de loi qui ont été approuvés et celui à venir si on se penche sur les troubles plus au niveau psychologique, psychiatrique. Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont positionnés sur ce document-là ou pour le moment, c'est encore nouveau
Ben, c'est sûr que par rapport au document, ben, tu sais, je pense que chaque personne avait comme un peu son opinion personnelle, là, mais c'est sûr, tu sais, que, c'est un document, en fait, hein, c'est ça qui est vraiment plus dans le contexte qu'on veut, tu sais, c'est comme on envisage que ça va venir, que l'aide médicale mourir, si ces patients-là vont être accessibles éventuellement, mais c'est pas un document de remise en question sur le fondement là, de l'aide médicale à mourir. Fait que, tu sais, certains pourraient reprocher ça. Puis, en fait, bon, c'est principalement ça là, que je voyais. Là.
Oui. OK. Puis, donc, c'est ça. Donc, eux se sont penchés là-dessus, mais il y a d'autres enjeux, là, je crois, qui ont été mentionnés. Je ne sais pas si tu voudrais peut-être les définir plus en détail, les enjeux ouais. qui ont été mentionnés, comme l'aptitude, l'évaluation de la souffrance.
Ben oui, c'est ça, parce que ça entraîne beaucoup de questionnements, puis en fait, bon, tu sais, j'avais parlé de comment déterminer l'incurabilité, l'irréversibilité, puis tu sais, il y avait là, tu sais, des études aussi, des revues systématiques de tous les arguments par rapport à ça, puis il y avait aussi, tu sais, la question, tu sais, est-ce que de offrir l'aide médicale à mourir, ça peut donner espoir aux gens ou au contraire diminuer l'espoir chez ces patients-là. Il y en a qui disent dans certains cas ben, que ça peut diminuer l'espoir qu'ils peuvent s'améliorer un jour, puis même ajouter à l'irréversibilité de leur situation, puis que ça peut être un message dangereux en fait d'envoyer à la société que les maladies mentales peuvent être sans espoir s'améliorer, mais en fait il y en a d'autres aussi qui disent que au contraire d'avoir l'espoir de pouvoir cesser de souffrir un jour, ben permet aux gens de s'investir là davantage dans leur suivi, puis peut-être de récupérer davantage. Fait qu'on voit il y a beaucoup de points de vue contradictoires. Il y a aussi là bon évaluer la personne dans sa souffrance qui est quand même un défi parce que la souffrance ben dans le fond qu'est-ce qu'il mentionne dans la MPQ puis le docteur Gupta qui est responsable aussi c'est que tu sais ça découle là vraiment du sens que la personne accorde à son expérience tu sais d'une situation en fonction vraiment de ses valeurs à elle puis de ses relations puis de sa vie puis que dans le fond c'est difficilement objectivable de dire est-ce que la personne est vraiment souffrante ou non dans le contexte là vraiment d'une maladie psychiatrique parce que ça varie en fonction aussi de l'observateur, de ses propres valeurs puis de l'évaluateur. Puis suggère à ce moment-là vraiment d'aller dans un mode là, d'exploration de la souffrance, de la sévérité des symptômes, puis des impacts que ça a dans la vie de la personne, plutôt là, vraiment de faire une évaluation formelle. Fait que, tu sais, d'avoir une approche un peu différente. Puis aussi, c'est de voir, est-ce que ça se fait vraiment de dire à quelqu'un que sa souffrance psychologique n'est pas insupportable? Puis ça aussi, c'est un débat là, qui va avoir lieu là, dans le futur. Puis, tu sais, aussi, un des enjeux, c'est que c'est montré aussi que le manque de ressources socio-économiques, ben, ça peut contribuer à la souffrance de la personne. Donc, les déterminants sociaux peuvent, c'est ça, ajouter à la souffrance. Puis, c'est de voir si on autorise l'aide médicale à mourir des personnes qui ne sont pas en fin de vie. Est-ce qu'on va aller, en fait, combler... est-ce que, tu sais, on va autoriser l'aide médicale à mourir plutôt pour des déficits sociaux qui sont pas comblés là par les financements de la société, par exemple? Est-ce qu'on va avoir plus de demandes pour des gens, en fait, qui sont plus grabataires, tu sais, qui se mobilisent moins, qui sont malades, puis, par exemple, qui veulent pas aller en CHSLD parce qu'ils trouvent ça inacceptable de finir là dans un lieu comme ça? Fait que, tu sais, de voir est-ce que c'est, dans le fond, on va... tu sais, comme augmenter les demandes parce que on a des déficits là au niveau de la société. Fait que ça, c'est quand même aussi un des enjeux là qu'il y a aussi à voir.
Oui, donc en tout cas, c'est très intéressant là de merci Isabelle d'avoir parcouru là les différents enjeux, puis j'imagine qu'il y en a même encore plus que ceux que tu as nommés, mais déjà là ça entame une bonne piste de réflexion, puis ça, il y a plusieurs questions qui me viennent en tête et j'imagine que ça doit être la même chose pour les personnes qui écoutent l'émission. On va se pencher plus là-dessus, nous aussi, et réfléchir parce que c'est des enjeux de société là, qui nous touchent tous. C'est vraiment intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ça, donc de parcourir les enjeux qui sont au cœur là, de l'aide médicale à mourir, notamment en lien avec les troubles psychiatriques et psychologiques. C'est déjà tout pour notre émission. Ça a été un tour rapide hein, d'une situation assez complexe. Donc, si vous avez plus de questionnements, on vous invite là, à aller consulter là, les différents documents gouvernementaux qui sont disponibles, aussi celui de la MPQ qu'on va mettre disponible sur notre page Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. Merci encore, Isabelle, là, d'avoir pris le temps de démystifier et de vulgariser ce sujet.
Merci à toi de m'avoir accueillie.
Okay. Donc, ça fait plaisir. Bonne journée à tous. On se revoit la semaine prochaine pour Psychoserie.